Radio Caveland, histoire.
Bonjour et bienvenue sur Radio Caveland. Aujourd'hui, on va une nouvelle fois explorer le passé et les sous-sols de Nanterre, puisqu'on va parler production de champignons. On remonte le temps jusqu'en 1859, date à laquelle les premières autorisations de culture des champignons dans les carrières de la ville ont été délivrées par la préfecture, si mes informations sont exactes. Nos guides aujourd'hui, donc Robert Cornaille et Janine Cornaille. Robert est président de la Société d'Histoire de Nanterre et Janine est secrétaire de cette association. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Robert, pourquoi la culture de champignons, elle s'est ainsi développée à l'époque dans les anciennes carrières de Nanterre ?
Alors, pourquoi dans les carrières de Nanterre ? Parce que les carrières présentent très naturellement les conditions idéales pour la culture du champignon qui demande une hygrométrie régulière et une température également régulière. Donc c'est...
À peu près combien ?
10-12 degrés pour la température et pour l'hygrométrie, c'est jusqu'à 90%.
D'accord.
Donc, dans ces carrières, eh bien, on peut obtenir... Alors, évidemment, les conditions peuvent varier selon les saisons, mais on peut quand même agir, par exemple, en régulant l'aération de la carrière.
D'accord.
D'ailleurs, on détectait la présence d'une champignonnière à la surface de la carrière. On détectait la présence d'une champignonnière parce qu'il y avait des cheminées qui traversaient donc le plafond de la carrière et qui aboutissaient dehors. Et donc, on savait qu'à cet endroit-là, en dessous, il y avait des champignonnières. Et ensuite, à côté de chaque cheminée, il y avait un petit panneau avec le numéro de la carrière et le nom du propriétaire. C'était une obligation.
En fait, c'était une concession ou c'était les propriétaires du sol qui étaient propriétaires du sous-sol ?
Il y avait certains propriétaires, mais c'était plus souvent une concession. Donc, ces carrières, eh bien, on pouvait agir. En outre, c'était intéressant de cultiver des champignons dans ces carrières parce que ça ne nécessitait pas un gros investissement. Il n'y avait pas à envisager de construction, puisque c'était déjà prêt, à part des hangars pour différents travaux, mais des hangars non fermés, simplement couverts, et puis quelques remises pour les matériels. Donc ça ne nécessitait pas un gros investissement, et d'où le choix de ces carrières. Alors par contre, c'était l'avantage de cette culture dans ces carrières souterraines. L'inconvénient, c'est que certaines carrières pouvaient être dangereuses. Il pouvait y avoir des effondrements du ciel de carrière, c'est-à-dire le plafond. On a plusieurs exemples. Donc il fallait une autorisation donnée par la préfecture qui s'assurait que la carrière était saine.
Oui, que ce n'était pas dangereux.
Voilà, parce qu'il y avait des carrières il y avait des carrières saines
qui étaient assez solides,
assez humides aussi, mais d'autres ne convenaient pas forcément à la culture du champignon.
Et les champignonistes, c'était quel genre de personnes c'était ? Est-ce que c'était des anciens agriculteurs reconvertis ?
Alors à Nanterre, beaucoup d'agriculteurs soit convertis, soit en activité d'appoint aux autres, à des cultures maraîchères.
D'accord, comme un deuxième travail.
C'était un deuxième travail, effectivement.
Deuxième source de revenus.
Mais par contre, il pouvait y avoir des carrières qui était acheté par des gens fortunés, des Parisiens fortunés, et qui confiait la gestion de la carrière à un contremaître qui s'occupait de tout. Et c'était d'un bon rapport parce que les champignonistes ne payaient pas de patente ni d'impôts locaux.
Ah d'accord, donc c'était direct dans la poche.
Et ils percevaient leur argent au fur et à mesure de la vente. Les champignons étaient vendus aux Halles et donc le champignoniste percevait son argent immédiatement.
Et la saison était assez longue, justement.
La saison était assez longue, quasiment presque toute l'année. Ouais.
Alors, le 29 juin 1909, il y a eu une grève, un début de grève, une première grève en tout cas, des champignonistes de Nanterre. Qu'est-ce qui a fait que ces ouvriers se sont mis en grève? J'imagine que ce sont les ouvriers, pas les...
Alors, quand on parle des champignonistes, il y a le champignoniste, le propriétaire, on va dire, d'une champignonnière, mais il y a aussi l'ouvrier agricole qui s'appelle champignoniste. Et donc, c'est une période déjà très, très active sur le plan syndical. Il y a beaucoup de corporations qui suivent des mouvements de grève parce que la condition ouvrière est particulièrement difficile. Et en plus, c'est créé en 1895 le syndicat CGT. Et donc, l'action syndicale se développe à cette époque-là. Mmh. Et l'action syndicale va concerner le monde agricole également. Donc, va se créer... Le syndicat des ouvriers agricoles, alors qui comprenait les jardiniers, les horticulteurs, et puis y compris les jardiniers de cimetières et les champignonistes. Et donc les mouvements de protestation, de grève vont s'organiser. Et il va y avoir à Nanterre une première grève en juin 1909.
Alors qu'est-ce qu'ils réclamaient ces ouvriers champignonistes ?
Alors on a parlé des conditions pour avoir de bons champignons, mais les bons champignons viennent aussi avec de mauvaises conditions de travail, on pourrait dire, puisque les ouvriers agricoles... ils travaillent dans le noir quasiment toute la journée, et c'était des journées de 12, 14, 16 heures même quand il y a au moment des récoltes, par exemple.
D'accord.
Donc ensuite un travail physique très très pénible parce que il faut manier le fumier, le travailler, le préparer à la fourche. Ensuite, il faut l'étendre en meule dans les galeries. Et là, ça se fait quasiment à genoux. Et puis, il y a cette hygrométrie également qui est très, très malsaine. Et alors, les ouvriers champignonistes vont demander à bénéficier des toutes nouvelles lois sociales concernant les accidents du travail qui a été accordé aux ouvriers de l'industrie, mais qui n'a pas été accordé aux ouvriers agricoles. Donc ils vont demander à bénéficier de cette loi sur les accidents du travail.
Ah oui, donc ils demandent vraiment à bénéficier d'avancées sociales d'avancées, très récentes.
Très récentes, oui, tout à fait. Et donc les augmentations de salaire, le paiement d'heures supplémentaires...
Ils n'avaient pas d'heures supplémentaires payées, même quand ils dépassaient.
Ou très peu, ouais. et des augmentations de salaire également. Parce que, en fait, dans une champignonnière, on emploie du personnel quasiment à temps plein, mais on emploie aussi beaucoup de journaliers, et des journaliers qui sont payés à la tâche. Mmh. Les récoltes, par exemple, elles se font, les gens sont payés à la tâche, travaillent le samedi et le dimanche, parce que il ne faut pas attendre, parce qu'une fois qu'on a cueilli un champignon, on rebouche le trou qui a été créé et il va repousser un champignon après, quasiment au même endroit. Donc il ne faut pas perdre de temps. et on travaille donc le dimanche. Et dans les champignonnières, mais ce n'est pas le cas à Nanterre, dans les champignonnières où les gens sont logés et nourris, ils réclament des meilleures conditions de logement et de nourriture.
D'accord. Donc il y avait une grosse revendication sociale.
Il y a de grosses revendications sociales. Alors si bien qu'au mois de juin, les ouvriers se mettent en grève. Et ils se mettent en grève, mais la grève, elle a été préparée. Hein, les journaux de l'époque signalent des réunions qui sont faites soit dans les cafés, soit dans des carrières de Nanterre. Donc les ouvriers vont se mettre en grève et ils vont obtenir des augmentations de salaire et infime, mais ils vont se...
Ça va leur suffire ?
Ça va leur suffire pour l'instant. Donc ils vont reprendre le travail, ils ont commencé, c'est la grève fin juin, ils vont reprendre le travail début juillet.
D'accord.
Mais évidemment, les organisations syndicales sont actives. Et donc ces revendications se sont étendues aux champignonnières des environs de Paris. Et en septembre, il va y avoir de nouveaux mouvements de grève qui vont se déclencher.
Qui vont essaimer un peu partout.
Qui vont essaimer dans le département de l'ancien département de la Seine, c'est-à-dire Paris et la proche couronne, mais aussi dans l'ancienne Seine-et-Oise, c'est-à-dire les Yvelines, le Val d'Oise, et puis également à l'est de Paris, puisqu'il y avait des champignonnières quasiment tout autour de Paris. Donc le mouvement s'amplifie et il se répand. Et donc les mêmes revendications sont reprises. On demande également la suppression du travail du dimanche, le paiement des heures supplémentaires, et puis ce bénéfice de la loi sur les accidents du travail.
Et là, résultat positif ou...
Le résultat total de... Alors la grève va être très très dure, hein. C'est une grève très dure avec des sabotages de champignonnières, hein. L'appel à la troupe pour combattre les grévistes. Les grévistes qui se déplacent en cortège d'une champignonnière à une autre pour empêcher le travail des jaunes, et donc avec des échauffourées très, très fortes, des arrestations de champignonnistes. Donc,
un mouvement violent.
Un mouvement très, très fort, très, très violent, oui. Et dans la violence également dans les négociations, puisque les patrons champignonnistes refusent de négocier avec des représentants syndicaux qui sont étrangers à leurs champignonnières.
D'accord.
Et surtout, ils refusent la conclusion de contrats collectifs. Ils préfèrent évidemment. Garder... la mainmise sur les négociations au niveau de leur
champignonnière.
De leur entreprise, leur champignonnière. Donc ça va être très très dur. Et finalement, quand ils vont reprendre le travail, le conflit a duré 3 semaines, donc ils vont reprendre le travail. Et à la reprise du travail, ils n'auront... d'après ce que j'ai retrouvé, ils n'auront pas obtenu satisfaction. Cependant, comme il y avait eu auparavant des grèves également, où chaque patron avait accordé ce qu'il voulait, on espère qu'ils ont gardé quand même ce qu'ils avaient obtenu avant cette grande grève de septembre 1909.
D'accord. Ok, donc on n'est pas complètement sûr qu'en fait, ils aient pu garder le bénéfice de leur première grève.
Bah, moi, je n'ai pas retrouvé trace, hein, mais bon, c'est vrai que j'étais pris un peu de cours pour poursuivre les recherches. Donc, oui, des grèves très, très, très violentes.
Et à Nanterre, comment c'était l'ambiance justement au moment de ces grèves? Est-ce que la population a soutenu les grévistes? Est-ce que vous avez trouvé trace de ça?
Alors, oui, soutien. Les autres, en tous les cas, les autres corporations soutiennent les grévistes, hein, puisque les charretiers, par exemple, eux vont faire grève par solidarité. Et puis, vous avez également les charpentiers de fer, vous avez des terrassiers qui sont en grève, eux aussi, et qui viennent en cortège soutenir les grévistes des champignonnières. Donc oui, on rencontre une solidarité à l'égard des champignonnistes de Nanterre, et puis d'ailleurs, bien entendu.
Est-ce que c'est un des mouvements sociaux les plus importants qui ait eu à ce moment-là dans la ville, à peu près, dans cette période?
Alors, le plus important, on n'a pas suffisamment fait de recherches, mais ça a été un mouvement important. Ça a été un mouvement important parce que ça touchait le monde agricole. Hein, les grèves, à l'époque, ça a touché beaucoup l'industrie. Ça a touché même les administrations, le chemin de fer, enfin des entreprises vraiment de grosses entreprises. Et en fait, les champignonnistes, ça a été un mouvement de grève important, mais pas par le nombre, parce que les champignonnières, finalement, emploient peu de monde. La dizaine de champignonnières de Nanterre emploie entre 50 et 60 personnes. Hein. Mmh. Alors, plus auquel il faut ajouter les ouvriers, les journaliers qui sont payés qui sont employés pour certaines tâches.
Donc c'était moins important en nombre qu'en valeur par rapport au fait que c'était une grève agricole.
Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce que dans le monde agricole, les ouvriers agricoles se sentaient, très liés au patron. Ah, d'ailleurs, au début, quand on parlait de syndicats agricoles, ça réunissait les salariés et les patrons. Mmh. Après, il y a eu la création des syndicats agricoles ouvriers, mais pendant un temps, c'était étroitement lié, hein, en vertu de l'intérêt de l'exploitation, c'était l'intérêt de l'ouvrier. Ça, c'était une des notions très, très répandues.
Oui, donc c'était une des premières fois, en tout cas, où il y a eu un gros mouvement
social.
Oui, et
puis, c'est dans le monde agricole, et puis qui a participé à la multiplication de la création de syndicats agricoles, et des syndicats très, très actifs.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup encore Robert et vous, Janine, d'être venus nous raconter un petit peu de l'histoire des souterrains de Nanterre, avec en particulier cet épisode des ouvriers champignonnistes, travailleurs des sous-sols. Si l'histoire de la ville vous intéresse, je vous rappelle le site de la Société d'histoire de Nanterre, histoire-nanterre.org, où il y a plein d'articles, un petit moteur de recherche pour chercher les articles selon ses besoins et ses envies et sa curiosité personnelle. Alors, Robert me tend une petite affiche sur laquelle est expliqué que le samedi 19 novembre 2016 à 14h, vous pouvez venir échanger sur l'histoire de l'aménagement de la ville et le projet de Tours aux archives départementales des Hauts-de-Seine, aux archives départementales donc à Nanterre. Il y aura une conférence à deux voix de Dominique Trudel du CNRS et de Michel Laubier, ancien premier adjoint au maire, auteur de l'ouvrage « Le Nanterre auquel nous avons échappé ». C'est le samedi 19 novembre 2016 à 14h. D'autre part, il y a une quinzaine des auteurs à l'Office de tourisme de Nanterre. Donc c'est tous les jours du 15 novembre au 2 décembre 2016 et vous pourrez retrouver des livres avec les auteurs, rencontrer les auteurs de ces livres sur l'histoire de Nanterre, par exemple sur Sainte-Geneviève, La Folie, Vivre au paradis d'une oasis à un bidonville, etc. Le dictionnaire historique des rues de Nanterre, la cité jardin, Nanterre 1900-1930. Voilà, tout ça est disponible pendant la quinzaine des auteurs à l'Office de tourisme de Nanterre, 4 rue du Marché, chaque jour de 16h à 18h. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.
Radio Caveland, histoire.